les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Sabrina Robert-Quende, professeure de droit public à l'Université du Mans, nous propose une lecture des enjeux de la lutte contre les changements climatiques au regard du droit international. Quatrième épisode, changement climatique et sécurité humaine.
Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Amicus Radio. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du droit international applicable au changement climatique sous l'angle de la sécurité humaine. Les changements climatiques, c'est un phénomène que l'on rattache en première intention à une problématique environnementale. Et c'est justifié, compte tenu des effets catastrophiques des changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité et plus généralement sur toutes les ressources naturelles. Mais les changements climatiques constituent aussi un risque immédiat pour la sécurité des hommes. Pourtant, ce n'est que tardivement que la sécurité humaine a été abordée dans les négociations climatiques comme un aspect à part entière de la lutte contre les dérèglements du climat. C'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a le premier, en 2014, établi les effets que les changements climatiques ont sur les sociétés humaines et sur les droits de l'homme. Sur la base de ce constat, la question de la sécurité humaine a été prise en compte dans les négociations climatiques internationales. Mais pour le moment, à très petite dose. Si l'on prend l'accord de Paris de 2015, un lien est établi dans le texte entre la lutte contre les changements climatiques et la protection des droits de l'homme. C'est le préambule du traité qui formalise ce lien en affirmant que les parties contractantes, je cite, « devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme ». Mais l'accord de Paris n'aborde pas les droits de l'homme comme une composante à part entière de la lutte contre les changements climatiques. Ceci dit, on observe bien, depuis quelques années, une interaction grandissante entre les enjeux des changements climatiques et les droits de l'homme. Cette interaction, elle s'opère d'abord au niveau du travail des organes de protection des droits de l'homme. Au niveau universel, c'est dans le cadre du système de protection des droits de l'homme de l'ONU que cette conversion des droits de l'homme aux enjeux climatiques a été amorcée. Le Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire des droits de l'homme auprès du secrétaire général ou encore le Comité des droits de l'enfant défendent, depuis plusieurs années maintenant, une approche des changements climatiques qui est fondée sur le respect des droits fondamentaux. Et ces organes défendent aussi l'idée que les droits de l'homme peuvent être un levier de lutte contre les changements climatiques. Au niveau régional, on peut s'intéresser à la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors celle-ci ne reconnaît pas, pour le moment, de droits de l'homme à un climat stable, ou plus généralement, de droits de l'homme à un environnement sain. Cette position, elle peut paraître un peu conservatrice. Elle est par exemple en retrait par rapport à la position de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a consacré, en novembre 2017, le droit à un environnement sain comme un droit autonome que l'on peut invoquer devant elle, alors que la Convention interaméricaine des droits de l'homme ne le mentionne pas expressément. Mais il n'en reste pas moins que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contribue aussi largement à renforcer les interactions entre droits de l'homme et changement climatique. La Cour européenne, depuis quelques années maintenant, n'hésite pas à constater que des atteintes à l'environnement, une pollution de l'air par exemple, peut empêcher la jouissance des droits garantis dans la Convention, comme le droit de propriété ou le droit au respect de la vie privée. Alors à titre d'illustration, on peut citer un arrêt récent, du 24 janvier 2019, dans l'affaire Cordella contre Italie. Dans cette affaire, il était question des émissions nocives d'une usine dont souffraient les habitants d'une ville. La Cour a constaté qu'il y avait une violation du droit à la vie privée des requérants pour les raisons suivantes. D'une part, les émissions causaient une pollution qui affectait la santé et le bien-être des requérants. Et d'autre part, les autorités italiennes n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des requérants. Dans cette affaire, la Cour a fait application de sa jurisprudence traditionnelle sur les obligations positives. Selon cette jurisprudence, non seulement les États doivent s'abstenir de toute ingérence directe dans les droits fondamentaux des personnes, Mais en outre, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la jouissance effective de ces droits. Ici, dans l'affaire Cordella, ce qui est reproché à l'Italie, c'est de ne pas avoir adopté la réglementation nécessaire, suffisante, pour encadrer l'activité industrielle en question, de sorte qu'elle soit moins polluante. Au niveau national, l'approche des changements climatiques par le prisme des droits de l'homme se développe à travers les contentieux climatiques, les procès climatiques, qui sont de plus en plus nombreux devant les juridictions internes. Alors j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces procès climatiques dans le cinquième épisode de cette émission. À ce stade, ce que l'on peut souligner, c'est que dans ces procès climatiques, les requérants, qui cherchent à engager la responsabilité des pouvoirs publics pour leur carence ou leur inaction climatique, se placent souvent sur le terrain des droits de l'homme, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution nationale, par exemple, ou par les traités internationaux qui sont invocables devant le juge, pour consolider leur argumentation. Et ce qui est dénoncé par ces requérants dans ces procès, c'est le manque de diligence des pouvoirs publics face à leurs obligations de protéger l'homme des conséquences des changements climatiques. Alors ce que l'on vient de voir, c'est une approche individualiste de la sécurité humaine. Les droits de l'homme sont désormais un outil, en tout cas ils sont utilisés comme tels, pour faire pression sur les États afin qu'ils soient plus diligents dans la mise en œuvre de leurs engagements climatiques. Mais la sécurité humaine, elle a aussi une dimension collective. Et de ce point de vue, une des problématiques les plus délicates à l'heure actuelle concerne les populations qui sont obligées de fuir leurs terres en raison de l'érosion, de la montée des eaux ou de la désertification des sols.
Ce sera un jour très triste lorsque le pays, la nation et le peuple des Kiribati auront disparu.
Anote Etong est le président des Kiribati. Il craint que sa nation ne devienne l'un des premiers pays à devenir victime de l'élévation du niveau de la mer.
Nous parlons de la vie de gens. Nous ne parlons pas de celle des ours polaires. La vie des ours est précieuse et je ne voudrais pas les voir disparaître. Mais je ne voudrais pas voir notre peuple disparaître non plus.
L'élévation du niveau de la mer et les vagues exceptionnellement grosses menacent la population des Kiribati d'une centaine de milliers d'habitants qui vivent sur 33 atolls dispersés dans une vaste zone au long de l'équateur dans l'océan Pacifique.
Nous préparons notre population en l'aidant à s'installer ailleurs en toute dignité, si et quand les gens en éprouvent le besoin. Ces gens sont qualifiés, ce ne sont pas des citoyens de deuxième classe. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent des réfugiés du changement climatique.
Le président dit que la population n'a que quelques décennies pour se préparer à aller ailleurs. Mais la génération plus âgée des Kiribati n'a pas l'intention de partir.
Si on me posait la question et si on la posait aux gens âgés des Kiribati, la réponse serait négative. Ils veulent rester ici et même mourir ici.
La culture des Kiribati disparaîtrait avec leurs anciennes traditions s'ils devaient partir.
Notre meilleur espoir est de conserver l'intégrité de notre culture. Je ne pense pas que nous arriverons à maintenir notre population dans un lieu unique, mais j'aimerais que nous arrivions à conserver la nation des Kiribati d'une manière ou d'une autre.
Comme on l'entend dans cet extrait d'un reportage qui a été réalisé par la télévision des Nations Unies, la situation des déplacés climatiques est devenue une urgence pour les pays concernés, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'HCR, estime que d'ici 2050, ce sont plus de 250 millions de personnes qui seront obligées de quitter leur territoire en raison des effets des changements climatiques. Alors pour le moment, les déplacements de population dus aux effets du changement climatique restent pour l'essentiel cantonnés sur le territoire de l'État d'origine. Cela crée déjà de graves difficultés, puisque la relocalisation des populations déplacées peut se heurter à de multiples obstacles économiques, politiques, sociaux. Mais ce qui est plus grave encore, c'est le sort des populations qui pourraient se retrouver sans État, si le territoire de leur État de nationalité disparaissait totalement, sous la montée des eaux, ou devenait impropre à la vie humaine. Cette préoccupation concerne pour le moment essentiellement les petits États insulaires du Pacifique. Mais en réalité, ce sont tous les États qui doivent se mobiliser pour trouver des solutions, pour préserver les droits fondamentaux de ces populations. Se pose d'abord la question de leur statut juridique. La qualité de réfugié ne peut pas leur être reconnue en l'état du droit positif, car la Convention de Genève de 1951 réserve ce statut aux personnes qui sont persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leur opinion politique. Et jusqu'à maintenant, il n'a jamais été sérieusement question d'amender la Convention pour l'étendre au cas des réfugiés climatiques. Se pose aussi la question de leur droit à une nationalité. Si l'État disparaît, est-ce que ces personnes deviennent des apatrides ? Pour le moment, le droit international ne donne pas de réponse. Si la population d'un pays tout entier est touchée, se pose encore la question des droits de cette population en tant que peuple. À supposer que ce peuple soit accueilli sur le territoire d'un État voisin. La question qu'il se pose, c'est dans quelle mesure ce peuple pourra continuer à exercer son droit à disposer de lui-même, en participant en tant que peuple distinct aux instances représentatives de l'État d'accueil, en continuant à pratiquer sa langue et sa culture. C'est toute la problématique qu'évoque le président des Kiribati dans l'extrait que nous venons d'entendre. Et là encore, le droit international, pour le moment, ne propose pas de solution. La prise en compte des enjeux de sécurité humaine en lien avec le changement climatique, elle est récente. Nous venons de voir quelques exemples de la manière dont cette sécurité humaine peut être menacée par les changements climatiques. Nous venons également de voir que le droit international positif offre des outils intéressants pour assurer cette sécurité humaine. Les droits de l'homme constituent par exemple un puissant levier en ce sens. Mais nous avons également vu que le droit international est aussi, pour le moment, démuni face à d'autres types d'enjeux. C'est d'autant plus vrai que la sécurité des hommes face au changement climatique se décline d'une multitude de façons, dans les domaines économiques, alimentaires, politiques, géostratégiques. C'est donc tout un pan du droit international de la sécurité climatique qui doit encore être imaginé et construit. Voilà pour ces quelques illustrations de la manière dont les changements climatiques peuvent affecter la sécurité des hommes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette émission, qui portera sur la responsabilité climatique des États.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.